La parole des contes avec Anne Wang.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue sur les ondes de Radio FM+. Et ce dimanche, vous allez entendre notre invité, le conteur Robin Recourt, organisateur des Belles Histoires, Festival de Contes à Montpellier.
Voici dans nos studios le conteur Robin Recourt.
Bonjour. Salut Anne.
Bonjour. Donc tu es conteur depuis un certain temps.
Ouais, depuis 25 ans. Un quart de siècle, ça commence à faire. Ouais, j'ai découvert les contes en 98. Donc ça fait, ouais, c'est ça, 25 ans. Voilà.
Et ton parcours, tu peux nous en parler un peu ?
Mon parcours de conteur ?
Eh oui !
Eh ben, mon parcours de conteur, c'est comment dire ? C'est une histoire en soi, quoi. À cette époque, j'étais étudiant à Lumini, donc à Marseille. Et dans mon... J'étais étudiant en master recherche. Enfin, à l'époque, c'était une maîtrise ou un DEA, je ne me souviens plus. J'écoutais beaucoup la radio, justement. Une radio qui s'appelle FIP, que tu connais probablement, et il y avait une antenne à Marseille, avec des FIPettes à Marseille, qui faisaient gagner régulièrement des cadeaux, avec des jeux, il fallait répondre au téléphone à une question, ou alors être le premier à décrocher. Et puis, comme j'écoutais cette radio tout le temps, que j'avais le téléphone de mon labo à côté de mon bureau, je connaissais le numéro par cœur, et dès que j'entendais les FIPettes commencer à annoncer qu'il allait avoir concours, je commençais à composer le numéro, et si j'avais la réponse à la question qui était posée, je terminais le numéro et je répondais à la question. Ou alors si c'était au premier à répondre, je terminais le numéro et j'étais le premier à répondre, et si j'avais pas, s'il y avait une réponse et que j'avais pas la réponse, et ben je raccrochais le téléphone. Et de cette manière là j'ai gagné plein de choses. J'ai gagné des bouquins, des CD, des places de concert. Je suis allé voir, c'était à Marseille, je suis allé au Doc des Suds, je suis allé à l'espace du cours Julien, je suis allé voir des groupes importants. Et un jour, je gagne deux places pour aller voir un spectacle de conte. Je me dis, mais c'est quoi ce truc ? J'étais presque déçu, en fait, d'avoir gagné ces deux places-là, parce que dans mes représentations, les contes, c'était quelque chose pour les enfants. Ou alors du livre lu. Je me suis dit, bon, ça va être ennuyeux. Et puis, à chaque fois, je gagnais deux places. Alors, je proposais à mes potes de m'accompagner. Mais là, deux places, personne, surtout à la fac de sport, parce que j'étais à l'UFR Staps, autour de moi, non, ça intéressait personne. Et comme j'avais conscience quand même que les théâtres donnaient des places aux radios pour remplir un peu la salle, et puis je me disais aussi que peut-être qu'il y avait des gens qui auraient aimé gagner ces places-là, j'ai commencé à culpabiliser. Et je me suis dit, bon, allez, j'ai rien à faire ce soir, j'y vais. J'y suis allé, c'était en haut de la Canebière, à côté de l'église des Réformés, je ne sais pas si tu vois un peu Marseille. Il y a un petit truc qui monte, la rue Barbaroux, et là j'ai découvert pour la première fois un théâtre qui s'appelle La Baleine qui divague, qui était un théâtre qui ouvrait juste, peut-être, oui, qui ouvrait juste, et qui était consacré, enfin, qui ne produisait que des conteurs. C'était le premier, le seul théâtre en France à ne programmer que des conteurs. Je me suis installé, et j'ai eu en face de moi un conteur, Kabilo Sevenol, qui m'a transporté dans sa Kabylie, sur la montagne berbère. Pendant une heure et quart, j'étais sidéré, quoi. J'ai trouvé ça génial. Et comme je me destinais au métier d'enseignant-chercheur et j'étais assez introverti, j'avais du mal à parler en public, je me suis dit, mais ça, c'est génial, la posture du conteur, c'est la posture de l'enseignant ou du chercheur en congrès. Il joue pas un rôle, c'est pas un comédien, c'est lui-même, il s'adresse à un public directement, sans faire spécialement des blagues, comme quelqu'un dans le monde du stand-up. Ça m'a l'air très intéressant. Et après le spectacle, J'ai entendu Laurent Descartes, qui était le directeur de la baleine qui divague, discuter avec une jeune fille et lui expliquer qu'il y avait un atelier qui se mettait en place dès le lundi suivant. Lundi suivant, j'y suis allé, j'étais seul, la jeune fille n'était pas là. Tapé à la porte, Laurent avait presque l'air étonné de voir quelqu'un. Il m'a dit oui, c'est bien là. Et pendant un an, j'étais quasi seul avec Laurent. Et tous les lundis, on travaillait ensemble. C'est devenu mon maître, en quelque sorte. Puis la deuxième année, il y a d'autres personnes qui sont venues, que tu connais. Daniel Richomme, Airati, Philémon. Et puis au bout de 3-4 ans, Laurent a décidé qu'il voulait former plus que les débutants. Donc il nous a demandé d'aller voir ailleurs, s'il y était. Et on a conçu, enfin on s'est regroupé, quoi. On est allé dans l'association Les Baladons, qui avait été créée par Didier un an ou deux avant. Et donc c'est Daniel Richomme qui nous a proposé de rejoindre cette association. Et on a formé en quelque sorte un groupe. Et on s'est mis à s'auto-former, on s'est mis à aller chercher des formations ailleurs. Et voilà, ça c'était il y a 25 ans. C'est vrai que c'est la version longue là, mais en 25 ans c'est dur à résumer. Et puis pendant 10 ans j'ai raconté de manière très amatrice, en amateur, mais passionné par les contes, parce que en dehors de l'aspect utilitaire du début, j'ai été mordu par cette discipline, par le répertoire.
Et justement, ton répertoire, il y a eu une évolution dans le répertoire, parce que à une époque, tu comptais l'épopée de l'Iliade ou de l'Odyssée, l'Iliade, je crois.
Non, j'ai juste raconté un petit... Ça m'est arrivé, je pense, un peu comme n'importe qui, de raconter des petits bouts, tu vois, sur des demandes particulières, notamment pour des établissements scolaires qui travaillent sur Homère. Donc je me souviens avoir travaillé une fois l'histoire du cyclope. Mon répertoire, ça a toujours été des histoires d'un peu partout qui me plaisaient bien. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire un spectacle, et je suis parti sur l'histoire, la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, en m'inspirant d'un texte de Flaubert, qui lui-même s'était inspiré d'un vitrail à Rouen, dans la cathédrale de Rouen, qui raconte donc l'histoire d'un saint. Mais c'est une histoire de saint, mais c'est une histoire qui est très païenne, parce qu'à l'intérieur, il y a un cerf qui parle, qui lance une prédiction, donc on n'est pas vraiment dans quelque chose de très... homologable par le clergé, c'est quand même très proche de l'héroïque fantasy, quoi. Et ça, c'était mon premier spectacle un peu avec une unité, quoi, une cohérence du début à la fin du spectacle. Et puis un jour, j'ai rencontré les comedy clubs, notamment le Montpellier Comedy Club, c'est-à-dire des scènes ouvertes destiné essentiellement aux humoristes. Mais à Montpellier, c'était une scène multidiscipline. On pouvait y aller avec un numéro de claquette, on pouvait y aller avec la chanson à texte, c'était très très ouvert. Et la seule contrainte, c'est qu'il fallait que ce soit une écriture personnelle. Tu pouvais pas venir au Montpellier Comedy Club avec une reprise de Pink Floyd. Il fallait que ce soit quelque chose d'un peu personnel. Et donc un jour, j'ai un étudiant à la fac qui m'a incité à y aller. J'ai raconté l'histoire que je trouvais la plus amusante de mon répertoire, et ça a bien fonctionné. C'était l'histoire du petit chaperon rouge en anglais. Et à l'époque, je ne parlais pas très bien anglais, ça donnait quelque chose d'un peu marrant, quoi, qui facilitait le rire. Et puis un jour... Dans notre asso, là, les baladons, on a une adolescente conteuse, Célia, je ne sais pas si tu te souviens, Célia Papin, qui s'est dit, tiens, je vais faire comme toi, Robin, je vais raconter une histoire dans une langue étrangère, mais moi, ça sera une histoire de samouraï, et je vais la raconter en espagnol. Et ça a donné quelque chose de super sympa. Et j'ai dit, bah tiens, bah, je te la pique, cette histoire, et je la raconterai au Montpellier Comedy Club le mois prochain. Et après ça, je vivais en colocation avec une... brésilienne, Meira, Et je lui ai demandé, tiens, tu pourrais pas m'apprendre à raconter une histoire en portugais. Et on a travaillé ensemble, Cendrillon, en portugais. Je suis allé au Montpellier Comedy Club et j'ai raconté Cendrillon en portugais. Ça a cartonné aussi. Et à partir de ce moment-là, tous les mois, on m'attendait avec une histoire différente, dans une langue différente, au MCC, au Montpellier Comedy Club. Et un jour, on m'a dit, mais là, tu as un concept de spectacle. Il te manque une langue ou deux, peut-être le chinois, peut-être l'arabe. Et tu as un spectacle. Alors, je suis allé chercher ces langues-là et... poussé par cet étudiant qui était devenu un ami et qui organisait le Montpellier Comedy Club, Julien. Je suis allé à Avignon pour faire mon premier Avignon sur ce spectacle-là, qui est devenu « Il était une fois les langues » et qui est mon deuxième spectacle avec une cohérence, une unité, dans lequel je raconte des histoires, des contes traditionnels, mais dans 7 ou 8 langues différentes. Et puis, plus récemment, il y a 5 ans à peu près, j'ai un étudiant que j'encadrais en thèse de doctorat à l'université, qui m'a dit, qui est devenu un ami aussi, qui m'a dit, tiens, mais Robin, pourquoi tu n'écrirais pas un spectacle sur ton expertise universitaire, sur le sport ?
Genre conférence
gesticulée, mais en fait, c'est pas du tout le parti que j'ai pris, la conférence gesticulée. Mais effectivement, je me suis dit, allez, je vais construire un spectacle sur les Jeux Olympiques dans l'Antiquité. Et c'est devenu Olympiakoi Agones. Après, on a changé de titre parce que le public comprenait pas ce titre et qu'il n'arrivait pas à le prononcer non plus. C'est devenu Sur la route d'Olympie. Et c'est devenu un spectacle en épisodes, 5 épisodes d'une heure chacun, donc un contenu de 5 heures, mais avec des épisodes autonomes qui peuvent être programmés indépendamment les uns des autres. Et à Avignon cette année, j'ai joué l'épisode 2 sur les femmes athlètes dans l'Antiquité grecque, qui s'appelle Les déesses du stade. Mais ce n'est pas la conférence gesticulée parce que je ne suis pas dans une posture un peu haute du conférencier, du sachant qui impose un savoir à son public. Je garde vraiment la posture du conteur. C'est-à-dire que il y a des dialogues, des actions, des réactions, je raconte des histoires. Alors, le fait d'écouter ces histoires, ça fait apprendre des choses sur l'Antiquité et sur le rapport au corps et au sport des anciens. Mais à aucun moment je prends la place du conférencier, et dès que mon contenu sent un peu le prof, que je me rends compte ou qu'on me le signale, à ce moment-là j'efface et j'essaye de trouver une autre manière de raconter. Voilà, c'était un peu long comme réponse à ta question, mais bon, c'est difficile de résumer.
Et est-ce que tu pourrais partager avec nous un moment où tu étais en posture de conteur, donc soit dans ce style de conférence ou dans l'un de tes spectacles ou dans d'autres représentations, et où dans le déroulé du racontage, tu as été surpris par ce que tu étais en train de dire ou une image qui t'arrivait, ou enfin tu as eu une surprise. Tu t'es senti un peu en faiblesse, et après, comment tu as rétabli le truc, tu vois ce que je veux dire ?
Oui, je vois, ouais. L'image que tu me donnes, elle me fait penser à quelqu'un d'autre, mais je peux t'en parler, puis après revenir sur moi si une idée me vient, parce que... Il y a une dizaine d'années, peut-être un peu moins, je m'occupais de la régie d'un humoriste. Et cet humoriste, qui est quelqu'un qui est un ami, qui est très sympathique, mais je ne vais pas donner son nom parce que je vais le critiquer, là, dans la gestion de ce que tu me demandes. À un moment donné, dans son spectacle, est en train de décrire un arabe, je connais pas trop la terminologie, j'ai un mot là peut-être, enfin quelqu'un qui croise lui en tant que narrateur et qui est habillé avec une grande robe religieuse et avec des paires de chaussures Nike. Et l'image le surprend au moment où il fait cette description-là, et il se met à rire. Il est pris d'un fou rire. Et c'est très très agréable pour le public, parce qu'on se dit, tiens, là on est dans un spectacle vivant, il se passe quelque chose d'unique, et c'est génial. Et le lendemain, je faisais aussi sa régie, et même fou rire sur la même image. Et je me suis senti... je me suis senti pas trahi, le terme est un peu fort, mais ça crée un malaise en moi. Parce que j'ai eu l'impression que ce qui était présenté comme quelque chose de vivant, en fait, c'était une mécanique bien huilée. Ça m'a amené à me poser des questions sur l'éthique, de ce qu'on peut raconter sur scène et sur la relation au public. Ça me fait penser à une autre anecdote là, que j'ai vécue à Avignon, où je suis allé voir un artiste, un comédien que j'adore, qui s'appelle Johan Mété, qui cette année proposait un spectacle sur la difficulté à écrire. Parce que Johan Mété, c'est un comédien qui raconte. Pour moi, il est proche du conteur, mais c'est un conteur là aussi qui vise beaucoup l'humour, qui vise quand même beaucoup à faire rire son public. Et son dernier spectacle, il s'appelle La tragédie du Dossard 512, c'est un spectacle qui a cartonné, qu'il a joué à Paris pendant 10 ans, il y a eu 1 million de spectateurs, un spectateur cumulé, enfin c'était vraiment, ça a cartonné. Et après ce spectacle-là, bon il explique pourquoi, mais je ne vais pas le dire là, ce serait trop long, il se décide d'écrire un deuxième spectacle, un nouveau spectacle, mais bon c'est difficile, parce qu'il a beaucoup d'ambition pour ce nouveau spectacle, et après un spectacle qui a cartonné, c'est difficile de partir sur quelque chose de neuf, quoi. Et pour partir sur quelque chose de neuf, comme il avait pris en quelque sorte une retraite de quelques années, il s'est dit, tiens, je vais voir le monde de l'humour, à quoi ça ressemble aujourd'hui. Et il va voir le spectacle d'un jeune humoriste. Et pendant tout le spectacle, il ne comprend pas l'humour de ce jeune gars, parce que lui, maintenant, il a 46, 47, et ce jeune gars, il a 18, 19, peut-être 20 ans. Il a des références qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, il voit tout le monde rire, applaudir, il ne comprend rien. Mais à la fin du spectacle, il y a lumière, fuchsia, et l'humoriste dit, bon, je suis très ému aujourd'hui parce que là, devant la... Alors, Johan Mété raconte que c'est sur un zénith avec, je sais pas, 10 000 personnes, enfin vraiment quelque chose d'énorme, quoi. Et il dit, voilà, en face de moi, il y a cette chaise qui est vide, et sur cette chaise vide, il y aurait dû avoir mon père. Mais mon père, malheureusement, est mort ce matin. Mais il fallait quand même que je vienne ce soir. Et donc, voilà, ce spectacle, je le dédie à mon père. Et alors, Johan Mété est submergé d'émotions, applaudit, il dit, c'est génial. Et il va voir le spectacle une deuxième fois, tellement il a été ému. La semaine d'après, à la fin du spectacle, lumière fuchsia, et l'humoriste qui dit à son public, je suis très ému aujourd'hui parce que vous voyez, sur cette chaise-là qui est vide, il aurait dû avoir mon père. Mais malheureusement, il est mort ce matin et je suis très ému. Alors, Johan, il dit, oh, mais quelle abnégation. Moi, j'ai une... Parce que entre-temps, il était allé dans l'arrière-pays, il s'était mis à élever des chèvres, tout ça. Moi, j'ai une chèvre qui est morte, j'ai mis 3 semaines à sortir de chez moi, j'étais au fond du trou. Et lui, son deuxième père, c'est-à-dire qu'il est issu d'un couple homo, en plus, est mort et J'étais ému, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, faut que tu ailles voir ce gars-là, il est tellement authentique, tellement sincère, c'est tellement fort. Et puis sa femme va voir, et il revient, et puis il dit, mais en fait, il a fait 60 dates, son père il est mort 60 fois, quoi. Et tout ça pour parler de... Je suis parti un peu loin par rapport à ta question, hein, mais par rapport au fait que parfois... Parfois, il y a des choses qui apparaissent comme ça. On se dit, tiens, c'est étonnant, c'était pas prévu, alors que c'était très, 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 très prévu. Si, une fois, mais j'étais tout petit, j'étais allé voir, comment il s'appelle, Arditi, à la Criée, au théâtre de la Criée à Marseille, qui jouait Don Juan. Et là, effectivement, à un moment donné, il est parti d'un fou rire. Tout le monde arrive sur scène, ils n'arrivaient pas à s'arrêter du fou rire. Mais là, c'était vraiment quelque chose d'imprévu. Bon, enfin, tout ça pour dire que l'imprévu, ça peut exister, comme pour Arditi. Ça peut être du faux imprévu. Et moi, personnellement, ça, j'aime pas ça, parce que j'ai l'impression d'être trahi. Mais c'est moi. Toi, tu dis, bah oui, je pense que tu es comme moi.
Plus le travail ouais. du conteur n'est pas le travail du comédien.
Ouais. Mais effectivement, il y a des comédiens qui me disent, non, moi, quand je rentre dans la salle de théâtre, la convention, elle est à partir du moment où je m'assois sur le fauteuil, il peut se passer n'importe quoi, j'accepte tout. Mais c'est vrai que le conteur, sa convention, il me semble, c'est à partir du moment où il était une fois, il dit au public, je vais te mentir, est-ce que tu veux que je te mente? Le public répond, oh oui, mens-moi. On adore ça. Mais si à un moment donné, le conteur sort de son histoire pour dire quelque chose en dehors de l'histoire, d'intime, au public, ben le public se dit, là, ce gars-là est en train de me dire quelque chose d'authentique. Et si ce n'est pas le cas,
c'est trahison.
C'est une trahison. Bon, enfin voilà, pour dire qu'effectivement, par rapport à est-ce qu'il y a des choses qui peuvent émerger comme ça, qui ne sont pas prévues, comment on s'en sort, déjà, c'était un peu un préambule, dire qu'il faut se méfier, parce qu'il y a des choses qui semblent être inattendues, mais qui sont extrêmement travaillées,
oui.
Et on ne s'en rend pas compte.
Non, c'était pas ça, c'est bon, quelqu'un qui rentre
ouais.
En retard, par exemple.
Oui.
quand tu racontes ton histoire, tu l'as raconté des dizaines et des dizaines de fois, ça se déroulait d'une certaine façon, et soudain, il y a un élément absolument imprévu qui arrive dans ton histoire, une image qui surgit, à cause du regard du spectateur, tout d'un coup, tu comprends ta propre histoire d'une façon différente, et c'est cette surprise-là.
Mais si, ça arrive régulièrement, enfin régulièrement, ça dépend ce qu'on entend pas régulièrement, mais effectivement, récemment, je suis allé jouer à Palaiseau, à côté de Paris, et sur mon spectacle, sur la roue d'Olympie, je jouais en extérieur, il y avait des adultes et quelques enfants, mais mon spectacle n'est pas adapté aux enfants, enfin à partir de 10 ans, ça va. Mais en dessous de 10 ans, c'est compliqué. Et pourtant, là, il y avait quand même pas mal d'enfants qui avaient entre 5 et 10 ans. Alors, je me suis dit, bon, ils vont rien comprendre à mon spectacle. Et en même temps, ils sont restés. Et par moments, je joue de la flûte dans le spectacle. Et alors, à un moment donné, je prends la flûte pour jouer. Ils s'en vont, parce que c'est ouvert, tu vois, c'est dans un parc. Et puis, je pose la flûte. Et je vois qu'ils reviennent, qu'ils se précipitent pour revenir. Donc, ils étaient vraiment attentif à l'histoire. Mais c'était quand même compliqué pour eux, puis ça durait 1h30, je crois, alors que, bon, 1h30 pour des... Mais par contre, le public adulte et ado en redemandait. Alors, je leur dis, bon, est-ce que vous voulez peut-être une autre histoire, parce que sur cette thématique, j'ai énormément de contenu. Et il y a un des plus jeunes qui répondent non parce qu'il avait envie de passer à autre chose. Et alors ça m'a un peu surpris, je m'attendais pas à ça, parce que si j'ai proposé ça, c'est que je sentais que le public voulait que ça continue. Mais ce non, il était tellement spontané, tellement inattendu et tellement clair, et que ça fait rire tout le monde, en fait. Et à ce moment-là, je sais pas, deux neurones qui ont connecté, j'ai dit, bon, ben, pour ceux qui veulent, je vais raconter encore une histoire, et puis pour ceux qui ne veulent pas, ben, vous pouvez aller voir si j'y suis, chez les Grecs. Je me souviens plus, je pense que c'était mieux formulé que ça, mais c'était pas non plus aller vous faire voir chez les Grecs, parce que ça serait devenu vulgaire. Mais ça s'est passé comme une lettre à la poste, et ça permettait de faire un lien entre cette situation inattendue et le contenu qui renvoyait à l'Antiquité grecque. Ça fait rire tout le monde. Et à la fin du spectacle, il y a un spectateur qui est venu me voir, qui m'a dit, mais ça, c'était prévu. C'est pas possible. Ça fonctionnait tellement bien. Et j'ai dit, non, c'est arrivé comme ça, spontanément. Et oui, des choses comme ça qui apparaissent alors qu'on ne s'y attend pas. Et qu'on ne le décide pas, c'est bizarre, hein, c'est même pas réfléchi. C'est la bouche qui sort quelque chose qui permet de s'adapter à la situation. Alors que je ne suis pas très à l'aise dans les situations d'improvisation. Contrairement à d'autres amis, j'ai beaucoup d'improvisateurs autour de moi. Moi, je ne suis pas fort là-dedans. Chaque fois que je suis allé participer à un atelier autour de l'improvisation, je me suis toujours retrouvé en difficulté. Mais c'est vrai que sur cet espace sacré qui est celui de la scène, les muses parfois nous jouent des tours et nous amènent à sortir de nous et puis à sortir des choses qui sont extrêmement pertinentes et parfois qu'on conserve et puis qu'on va reproduire si ça fonctionne bien.
Et une petite dernière question.
Ouais.
Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui s'intéresse au conte et qu'est-ce que tu lui proposerais ou quel conseil aurais-tu à lui donner sur le conte?
Récemment, je crois que c'était hier, il y a une jeune fille qui m'a demandé si je connaissais une formation, par exemple. Elle voulait approfondir. Oui, il y en a deux ou trois qui existent, des formations qui sont un peu connues. Et puis, il y a des conteurs aussi qui sont connus pour être des formateurs et qui font beaucoup de ça, et qui organisent beaucoup d'ateliers, de formations. Et ce que je lui ai dit, c'est méfie-toi à pas trop te faire formater par une formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des styles qui sont liés à des écoles. Le style Gougo, le style Hindenock, le style Zarkat, le style... Et ce qui me pose problème, c'est que les personnes qui suivent ces écoles-là, ces ateliers-là, deviennent souvent des clones, en moins bien, de mon point de vue. Et des fois, quand je vois ces clones sur scène, je vois le maître, en moins bien, et parfois je vois apparaître la personnalité par petites touches de la personne qui est en train de raconter, et je me dis, mais c'est dommage, moi c'est ce conteur-là que j'aimerais voir plus, parce que je crois qu'il y a autant de manières de raconter que de conteurs, et si on se met tous à raconter comme les gens qu'on admire, on se perd un peu. Alors je trouve que c'est très intéressant, très important de faire de la formation et puis d'aller voir ces maîtres parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ils ont énormément réfléchi sur ces questions-là, sur la narration, à la fois sur le fond et sur la forme. Mais il faut être attentif, je pense, à ne pas se laisser enfermer dans un style ou dans une école. Aller en voir plusieurs, se nourrir de plusieurs et puis essayer de trouver sa propre identité. Je me souviens sur sur les premières années où je commençais et qu'on me demandait, quand j'avais des amis qui venaient à la maison, qui voulaient en savoir plus sur ce que c'était que cette passion-là qui était en train de me gagner, je leur faisais écouter La soupe aux cailloux de Michel Hindenock en leur disant, voilà, ça c'est mon idéal, c'est ce que je cherche à atteindre. Et plusieurs fois on m'a répondu, mais surtout pas, toi quand tu racontes, ce qu'on aime dans ta façon de raconter, c'est pas ça. Effectivement, c'est super de ce qu'il fait, ce gars-là, mais c'est pas toi. Et si tu abandonnais ce qui fait ta singularité pour raconter comme lui, ce serait vraiment dommage. Et voilà, c'est ce que j'ai dit à cette personne hier, cette jeune fille, cette jeune femme, et ce serait le conseil que je donnerais à un conteur, à quelqu'un qui a envie de s'engager dans cette discipline-là.
Merci beaucoup, Robin.
Avec plaisir, Anne.
Et c'était le conteur Robin Recours. Merci, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et un joyeux dimanche et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.